Következő műsorunkat 12 éven aluliak számára csak nagykorú felügyelete mellett ajánljuk.
يمكن أن أتكلم أولا على حكمة من حكام مولى عبد السلام بن مشيش، وهو كان من شيوخ التصوف الكبار، قطب في التصوف بالمغرب، والذي كان يقول: من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله ماذا وجد. ويمكن أن أصاحب هذه الحكمة بحكمة كنت أسمعها عن أبي وعن جدي كذلك، وهي باللغة الدارجة بالعربية تقول: لا يغلق أو لا يسد الله سبحانه وتعالى باب إلا بعد ما يكون فتح أبواب. ففي الواقع هذه الحكمة هي نفس الحكمة التي تكلم عليها مولانا عبد السلام المشيش، ولكن بشكل عملي. ففي الحياة الإنسان يجد كافي الدروب في هذه الملتويات، الدروب الملتوية، لما لا يجد مخرجا في اتجاه معين فسيجد مخرجا آخر، كالماء التي تجد سبيلها هي بنفسها على حسب المنحدرات وعلى حسب إمكانية وجود سبل مختلفة. فكذلك روح الإنسان الذي يبحث عن الحقيقة ويبحث عن المعاني الرقيقة، فهو دائما من وراء هذه المعاني وله إشارات تأتيه من الغيب، فلما تغلق باب يجد طريقا آخر ويكتشف حكمة جديدة ويسلك سلوكات التي تقربه من المعنى الأساسي في الحياة، وهو تقربه من نفسه. فالشاعر سوف يقول: كنت بيني وبيني غائبا عني بأيني، والذي أهواه حقا لم يزل ذاتي وعيني. من ينسى
ينسى كيف يغوص الفلاح في تربة خوفهم كالخل. من ينسى ينسى يطير الحمام يحط الحمام، يطير الحمام يحط الحمام، يطير الحمام يحط الحمام، يطير الحمام يحط الحمام.
Ce jeu de feinte aussi est très beau et il peut être aussi une métaphore de l'écriture, du fait que parfois on avance vers un chemin, on croit qu'il va mener vers quelques lieux, mais en vérité non, ça s'interrompt, il faut revenir sur ses pas pour retrouver la zone qui va communiquer vers un ailleurs. Le texte aussi, dans ces jeux d'excroissance, est de même nature. Et dans mon tout premier livre, en raison de ce rapport avec la marche dans le labyrinthe et les labyrinthes des Médinas, que nous retrouvons dans les Médinas, que ce soit Tunis ou comme ici à Fès ou d'autres villes, mais à Fès c'est particulièrement impressionnant du fait que le labyrinthe reste totalement préservé et interdit aux voitures, ça me paraît très important aussi. J'ai inventé d'une manière totalement naturelle, c'est le romancier Claude Ollier, qui est une des grandes voix du nouveau roman en France, qui lorsqu'il a lu mon premier livre qui s'appelle Talismano, et où il est beaucoup question de Médina, où j'ai inventé le verbe médiner. Médiner, c'est marcher dans la Médina en méditant, en fait, hein, parce que c'est proche aussi de méditer. Et là, c'est lui qui a attiré mon attention, alors que moi, je l'ai écrit, je l'ai jeté, je dirais, dans le répertoire des mots d'une manière naturelle. On m'a dit: ah, là, vous inventez un mot qui est tellement fort parce qu'il correspond à quelque chose. Moi-même aussi, j'ai vécu cette fascination de la marche dans le labyrinthe au sein de la Médina. Il a beaucoup vécu à Marrakech, Claude Ollier. Et il me révèle autre chose, alors c'est un élément qui me paraît important, cette atmosphère, cette ambiance que l'étranger, lorsqu'il la sent, il croit que c'est dû au fait qu'il est étranger à l'islam ou à la culture islamique. Je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment, mais lorsqu'on marche dans la Médina, on a un peu les épaules lourdes, parce qu'en même temps, il y a une peur qui est là. On se demande, on se dit, bon, là, c'est presque le lieu du traquenard par excellence. Il se peut qu'on tombe sur un mauvais esprit pour qu'on vous plante un couteau dans le dos, voilà, pratiquement. Hein. Et on marche dans la Médina avec toujours cette pensée. Il m'a dit: vous qui êtes fils de la Médina, j'ai lu dans votre texte ce même sentiment de peur que j'attribuais, moi, à l'étranger. Et moi, ma réponse, c'est que peut-être le natif même du lieu auquel il appartient peut naître avec ce sentiment d'étrangeté et peut naître comme étranger par rapport à la communauté. Donc ce poids très impressionnant de la, du mal en fait. Le mal aussi rôde dans la Médina et c'est peut-être en raison de la présence des labyrinthes, de la présence de la ténèbre, de la présence de cette obscurité, de la présence de tous ces coins et recoins qui peuvent aménager le guet-apens, si j'ose dire, qui peuvent aménager l'agression, le lieu de l'agression. Et donc lorsqu'on marche, on est dans ce jeu de balance entre comment on s'aménage dans sa tête tous les schèmes qui amortissent la virtualité de l'agression, parce qu'en même temps on ne peut pas rester tout le temps oppressé par cette peur, donc on l'apprivoise aussi en marchant. Un autre élément qui me paraît étonnant pour les médinas en général, c'est qu'elles ont la structure aussi d'une toile d'araignée. Et Ibn Arabi, qui est un auteur que j'aime beaucoup, cet auteur du XIIIe siècle, natif de Murcia, et qui est venu d'ailleurs à Fès, il a eu un épisode notamment très étonnant, plusieurs épisodes, mais un des épisodes les plus impressionnants qu'il a eu à Fès, où il a eu une maladie très grave avec une très forte fièvre et il pensait qu'il allait mourir là. Il ne parle pas de la Médina directement, mais je pense à une métaphore qu'il avait faite qui m'a paru très surprenante. Il dit que lorsqu'on parle, lorsqu'on construit des phrases, comme je fais là maintenant devant vous, il se passe dans le cerveau, il imagine le cerveau comme une toile d'araignée. Et il dit, c'est une série, la construction d'une phrase, le discours en général, est une série de connexions, de fil à fil, des fils immensément ténus comme les fils de la toile d'araignée, et dans un réseau immensément complexe comme celui de la toile d'araignée. Marcher dans la Médina, peut-être aussi, nous donne, comme si, c'est comme si on marchait dans le labyrinthe de la toile d'araignée, c'est-à-dire comme si on marchait dans la trame du cerveau. Donc en marchant, on saute justement d'un fil à un autre pour construire nos phrases.
Le labyrinthe est vu différemment selon les cultures et même les langues. On pourrait le voir dans la civilisation occidentale comme une recherche pour trouver son chemin et trouver surtout la sortie de ce chemin. Alors vous avez par exemple les jardins anglais qui ont été construits autour de labyrinthes, comme ce jardin magnifique, et derrière nous avons un arbre de vie, un arbre aux couleurs splendides. Mais les jardins anglais ont été construits autour de ce concept qu'il fallait se cacher pour se retrouver. Chez nous, en Espagne, dans le sud de l'Espagne, nous voyons le labyrinthe aussi comme une recherche spirituelle. Vous avez un exemple formidable de ce labyrinthe qui est celui de la cathédrale de Chartres. La cathédrale de Chartres, au centre de la cathédrale, vous avez un labyrinthe. On ne sait pas qui l'a créé, mais il rejoint cette idée que dans la spiritualité, le chemin pour aller vers Dieu peut nous entraîner à des impasses. Et il faut contourner ces impasses, revenir en arrière pour retrouver la vraie sortie, celle qui nous amène à Dieu. Dans les civilisations orientales, le labyrinthe est vu aussi différemment et c'est une construction de soi-même. Le mandala est une construction de soi et on voyage autour de ce mandala. Vous avez les taoïstes qui pensent aussi que le voyage est un élément qui nous permet de savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, parce qu'on se rencontre, on rencontre notre culture et on se rencontre soi-même à partir de cette idée de mandala et de labyrinthe.
The sacredness of life is for Jews, Christians and Muslims. God created the world and he created life, and so because man are in the image of God, they are holy, they are sacred. And so the holiness of life is because it was created by God. But when we see the world, we see that life is not holy for a lot of millions of people. First, there are those who are hungry, who are persecuted, who feel very terrible about their future, and those who kill and those who die. But also, we, in spite of all this, in spite of all we see in the world, and what we see in the world is more terrible than holy, we have to believe that in the holiness of life, in the sacredness of life, so that we can go through all this, and that there are some people who can still wait and hope and try to repair the world, even if this is not immediate. They have to spend their life in repairing the world. There are two things that help us in that, and that are concrete. First, the birth of a child. It's always a miracle. And the second thing is when we have a real relationship, there's a real relationship between man and woman, the feeling is that not only that there is love and there is the encounter of the body, but there is also the discovery of the other who is different. The difference of the other is very important to us, and the other is essential to us, because without this other and his difference or her difference, we don't exist ourselves.
C'est assez étonnant que dans beaucoup de civilisations, quand on se pose la question de l'origine de l'homme, on place l'homme dans un jardin comme le nôtre. On imagine qu'un jour, Dieu a posé l'homme et la femme dans un lieu comme celui-ci, avec de l'eau, avec des fleurs, avec des arbres, et que toute l'épopée humaine a commencé dans un lieu comme celui-ci. Et puis on sait qu'à partir de là, il y a des choses qui se sont passées, des événements dramatiques qui ont eu lieu. C'est dans la tradition biblique, là. L'histoire du serpent et de la pomme, et là, ce qu'on appelle la chute de l'homme, et c'est le début de la tragédie humaine. Et ce qui me frappe, c'est que dans la tradition biblique aussi, il faut savoir que des événements qui sont racontés dans le passé, eh bien, sont souvent des annonces de ce qui va arriver dans le futur. Et donc, il faut se dire, le jardin, ce n'est pas nécessairement et uniquement le lieu d'où nous venons, mais peut-être aussi le lieu où nous allons. Et au lieu de voir ce jardin comme l'image d'un passé dont nous avons la nostalgie, on peut aussi se dire, est-ce que ce n'est pas l'image d'un futur que nous avons à construire? Et j'aime à dire que dans les temps anciens, l'astrologie nous disait, eh bien, votre destin est inscrit dans les cieux. Alors on regardait les cieux, on disait, quel est mon destin? Et aujourd'hui, je travaille pour l'Agence spatiale française, eh bien, nous construisons des fusées et nous allons dans le ciel inscrire notre destin. Mais c'est la même chose. Nos anciens pensaient que l'humanité était née dans un jardin et qu'après, eh bien, elle avait eu une histoire plus ou moins tragique. Je dis, mais c'est peut-être aussi l'image que nous avons aujourd'hui à construire des jardins. Et nous l'avons entendu dans ces journées. Aujourd'hui, si dans beaucoup d'endroits du monde, on retrouve l'art du jardin, l'art de planter des jardins, c'est peut-être parce que l'homme a décidé, ou continue à décider, ou ose encore construire un avenir. Donc l'art du jardin, c'est l'art de penser l'avenir.
enquête, qui est à la recherche de quelque chose d'invisible. Il y a toujours cette idée, quand on marche dans la ville, qu'on est guetté par l'invisible. Et dans la visibilité même, il y a toujours cette quête de l'invisible. Et d'un seul coup, on arrive, on passe de la rue vers les maisons. Dans cette maison, on va entrer, par exemple. Nous avons ce moment où, dès qu'on entre, on se trouve face à un mur. On ne voit rien de la maison. La maison est totalement cachée. Et puis on passe de la lumière du jour, qui est là dans le labyrinthe. D'ailleurs, dans la ville même et dans le labyrinthe, il y a tout un jeu entre l'ombre et la lumière. Parce qu'il y a aussi des passages obscurs. Il y a parfois des passages obscurs qui sont interrompus par des puits de lumière, mais toujours systématiquement dans les villes et les maisons d'islam, il y a cette spectaculaire séparation entre dehors et dedans. Donc il y a presque une vision où la maison, d'ailleurs le mot dar en arabe, le mot bayt en arabe, veut dire aussi temple. La maison est un temple. La maison, la demeure est quelque chose de très sacré. Et puis, c'est, voilà, petit à petit, donc la lumière qui s'étend, et hop, d'un seul coup, comme une épiphanie, l'explosion de la lumière. L'explosion de la lumière dans le patio, et de nouveau, donc, face à un monde qui était totalement couvert, où le ciel n'était pas accessible, vous avez un carré privé qui vous conduit au ciel. Et il y a évidemment un élément supplémentaire dans une ville avec des rues très étroite, il y a de temps en temps quelques places, bien sûr. Et alors, les places dans la ville fonctionnent exactement sur le principe des patios. C'est pour ça que dans les places, vous trouvez aussi des arbres, comme par exemple la place des Dinandiers, où il y a un très très beau érable au-dessus des artisans qui travaillent. Et à l'intérieur des patios, vous avez aussi des arbres, ici il y a des bigaradiers. Il y a toujours cette idée de donner l'impression du jardin, un échantillon du jardin au cœur même de la ville. Donc tout cela est un peu initiatique, et le monde des maisons, c'est le domaine des femmes. Cette séparation entre le privé et le public qui est assez impressionnante. Alors les femmes ici sont dévoilées, elles sont dans leur domaine. Quand elles sortent dans la rue, elles mettent le voile. Donc elles-mêmes, elles appartiennent au monde caché, au monde voilé. Et le processus de la connaissance et du rapport avec la femme exige un dévoilement. Exige donc un passage, je dirais, des ténèbres vers l'éclat de la lumière. En fait, à l'origine, cette structure, c'est la structure de la maison romaine. C'est la maison romaine, elle fonctionne exactement de la même chose, de la même manière, autour d'un portique, autour d'une cour, avec des chambres autour. Et donc, c'est un héritage, en fait, de l'Antiquité. Parce que même la notion, par exemple, de maison et de la séparation des sexes entre hommes et femmes, elle est déjà grecque. Le monde de Platon, le lycée de Platon, il n'y a que des hommes. Des pathéticiens de chez Aristote, il n'y a que des hommes. Pénélope est dans la maison, elle file, et elle attend le retour d'Ulysse, qui lui va en voyage.
تكبر تكبر فمهما يكن من جفاك ستبقى بعيني ولحمي ملاك تكبر تكبر فمهما يكن من جفاك وتبقى كما شاء لي حبنا أن أراك نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر.
هناك آية كريمة في القرآن الكريم التي تقول رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذه العلاقة ما بين التجارة وما بين العبادة هي علاقة وطيدة ومهمة في الحياة الاجتماعية الإسلامية وفي الحياة الروحية وفي الحياة العملية. فهناك مزج ما بين الروح وما بين المادة، ما بين الروح وما بين العمل. وكذلك في هذه العملية ومن خلال هذا التقارب من هذه المعاني، فيستطيع الإنسان أن يحول عمله إلى عبادة. فالصوفية يقولون الجسد في الحانوت والقلب في الجبروت في العالم الإلهي. فهذا في الحقيقة يعبر على الحياة الاجتماعية والروحية في الحضارة الإسلامية وفي العمل. وأصحاب الحرف هما عندهم هذا المقاربة في الحياة، بحيث أنه العمل لم يكن عمل فقط التعب أو لكسب الرزق، بل هو كذلك نوع من العبادة، من التأمل، من التعمق، ومن البحث عن الجمال، عن معنى الجمال. فالله كتبه الإحسان في كل شيء، فحتى في الإنجاز العمل هناك بحث عن الجمال. وأظن هذا هو السبب في هذا الإنجاز والبحث عن الجمال، حتى في الإنجازات المعمارية، في المنتوجات الحرفية والصناعة التقليدية. فهذا كله يدل على البحث عن جمالية خاصة. وهناك حديث شهير يقول إن الله جميل ويحب الجمال. فهذه الحضارة التي تنبعث وتتأسس عن البحث عن الجمال وجمال المطلق، ليس فقط الجمال المقيد بالماديات، بل معاني الجمال المختلفة التي ترتقي بالروح الإنسانية إلا أن يقترب من جمال لا متناهي، وهو الجمال الإلهي.
Human in his nature like just to turn. Why he likes, I don't know why, but I think because everything in reality spins. If you observe the kids, you will see they are turning without any problem, mostly because the nature is that. And as the older we become, we forget our nature because we become civilized figure. So we become foreign to that those activities, which is actually natural. Spinning is actually the matter which divided itself in different forms, tried to meet each other. So therefore they stay in certain power, they pull each other, but they push each other also. So therefore never they meet each other, like the woman and man. So you are together, but you never together. Like the electron and the proton is the same, like minus and plus, like a magnet. South and north is every time pulling each other but pushing each other also. This is the way how the matter divides itself, simplified in two, but this two is also created, and keep pushing and pulling each other. This creates this spinning, because all the time trying to find and does not find, and then go to the other place, another place, other place, and this moves like this, keep trying, and this will be created in different twos and different speeds, in different numbers and different ways. So therefore, it's everything like turning. And this turning, after a certain time, gives this harmony, because you feel comfortable in it, a trance, just a trance. So therefore, I think everything like to flew in spinning. Trance is the moment where I cross over my knowledge. So if my knowledge makes a geography, a district, anyway, anything, so I go to the border and then cross over. And I don't know where I am in reality, but I keep observing myself what I'm doing, and then when I come back, what means that I don't know, so which is like getting finishing the activity, relaxing my body, my mind, and just realizing where I am sitting here next to you and this and that. So I realize, so it was a journey, mental journey, of course, like dreaming. But then this, through the observation, you realize that your knowledge here, limited knowledge, and actually is very small percent of this endless, the infinity. So therefore I call actually the trance is the moment where my senses, my mind, functioning in the maximum. So in that moment I observe with my senses, hearing more voices, smelling more, tasting more, feeling more, and thinking the most crazy things, and relaxing my mind. So all my system, blood circulation, breathing system, muscles and joints, and all the systems in my body functioning actually in highest level, which is actually also without stress. So it's like very comfortable. Like I don't know, you wonder a man walking on the water, but it's actually in reality, I think it can be done, but maybe after a couple of hundred years or a thousand years, the ability will be so high, but now we are not that high. But to make this effort, we should spend a lot of energy. But a master can do this without spending a lot of energy. Imagine we start to spin now, I can spin much easier than you, because I know how to save my energy. So this is, in a way, the beginning of trance. I realize how nice to share this knowledge, and it's not about the sex, it's about the body. So therefore it's even better to have a female dancer in that case, which actually automatically we did something against the tradition in a way, because I think complementing an idea in a way, why just the man should spin, is something ununderstandable. God is me, it's you, it's the water, it's everything, so why we should divide it?
يعني كيف قلت لك وشافوا برهان وناضوا كلهم كل واحد في هاد الناس الجايه اللي هما الاشياخ الشعراء اللي كتبوا على سيدي في حق سيدي علي بن حمدوش حيت شافوا بزاف ديال الحوايج برهان وشافوا الطريقه في الغادي ومدحوه ومدحوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعني وهذا الشيء وصل لنا حنايا كشباب
واللي بعد منا وصلهم كاين واحد الحب حسوا به من خلال هذه القصائد حيت فاش يحكي لك كاين استوار من خلال القصيده تشوفها تيبان لك يعني صحيح هذاك الشيء ما كاينش زعما ما فيهش شي حاجه ولكن هو يتطلب حاجه وحده هو تكون النيه بالغه ويكون الحب هذه هي الروحانيه وهذه هي الصوفيه هو فاش مثلا حنا فاش نسمعوا الذكر تسمع الذكرى وتنذكروها وتنوضوا تتنوض الحضره تقوم الحضره يعني هذيك الوقت تتفرغ من جميع ما هي ماديه تتبقى واحد الحال اللي هو رباني يعني تتشافى انا شخصيا هذا هو الدواء ديالي يعني فاش تحضر وداك الشيء ولكن كاينه واحد القضيه اللي انا تنخاف منها وهو تنتمنى ما يتحرفش المسائل ما تحرفش تمشي للجهه حاجه وحده اللي هي الاتجاه ديال هاد الطوائف كلهم وخاصه الطائفه الحمدوشيه هو لله المعبود الله والدايم الله المعبود الله والرسول هذا هو المنهج حيت الى مشيتي في هاد الطريق تتحس بينه وتتشافى وبينه الداخل ديالك يعني لو فون تتزول عليك جميع المشاكل وما هي كاع دنيويه ولا تتفرغ تتحس بواحد النوع من السعادة.
يطير الحمام يحط الحمام 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 يطير.
Marokkói királyságban igazi kultusza van a lovassportnak. A dokumentumfilmben ellátogatunk az ország legrangosabb nemzetközi lovasfesztiváljára, amelyen megjelent 6. Mohamed uralkodó is. Az egyhetes seregszemlén felléptek a bugaci és hortobágyi csikósok is. Kassai Lajos lovasíjász különleges produkciójával varázsolta el a közönséget. Marokkói napok a Duna Televízióban. Marokkó, ahol minden a lovak körül forog. Dokumentumfilm szombaton délután a Duna Televízióban. Gróf Bánfi Miklós, politikus, író, lánya, Katalin 1946-ban Budapesten ismerkedett meg későbbi férjével, az amerikai követség katonai attaséjával. Férjét Marokkóba helyezték. Azóta él a Gibraltár parti Tanger városában. A filmben a grófnő felidézi szülei emlékét, marokkói életét és az első hazalátogatásának emlékét is. Marokkói napok a Duna Televízióban. Marokkó. Magyar grófnő Tangerben. A Szaharában megtalálhatod azt, amit mindig kerestél.
Ebben az országban?
Nincs idő. Rövid az élet. Ki kell használni?
A Szaharában elveszítheted azt, ami mindennél fontosabb.
Nekem a szerelem a mi szerelmünket jelenti.
Te tudnál nélkülem élni.
A főszerepben Debra Winger és John Malkovich. Marokkói napok, oltalmazó ég. Bernardo Bertolucci filmjét szombat este 10 óra 35 perckor tekinthetik meg a Duna Televízióban.
Békés új esztendőt kívánok Önöknek!
A könnyű és komoly zene legnagyobb csillagai. A Kárpát-medence leglátványosabb újévi koncertje.
Egy igazi nagyszabású zenekaros, énekesekkel, táncosokkal gazdagított gálamisort akartunk létrehozni, melynek középpontjában egy virtuóz, a világon sokak által magyarnak tekintett hangszer, a hegedű áll.
Mága Zoltán és vendégei egy felejthetetlen előadással ajándékozták meg a budapesti Papp László Sportaréna közönségét.
Köszönöm, Magyarország!
Elvis Presley új fejezetet nyitott a 20. századi könnyű zenében. Életében élő legendává lett. Elvis Presley a nők bálványa volt, igazi példakép. Ő volt Hollywood legfényesebb csillaga. 75 éve született Elvis Presley. Ez Elvis. A különleges amerikai dokumentumfilmet a királyról vasárnap este 9 órakor tekinthetik meg a Duna Televízióban. A második világháború utáni Olaszországban a motor az újra megtalált életöröm szimbóluma lett.
Nagyon népszerű volt a fiatalok körében. Annak a jelképe, hogy az ember a saját kezébe veheti sorsa irányítását.
Az első Lambretta robogó 1947-ben gördült le a milánói üzemgyártó szalagjáról. A márka hamarosan meghódította a világot. Lambretta, egy olasz állam tündöklése és bukása.
Kőbe ez a varázslatos, hogy inkább megtisztulok tőle, mint bekoszorulnék.
Szabó Tamás, Munkácsi díjas képzőművész alkotásait a szakma legjobbjai között ismerik el itthon és külföldön. A filmből megismerhetjük a művész életművét, új festészeti technikáit és díjnyertes Roma holokauszt emlékműtervét is. Az a dolgom, hogy csináljam. Portréfilm Szabó Tamás képzőművészről. Hétfő este 9 órakor a Duna Televízióban.
Most pedig felfedező útra indulunk a lélek mély rétegeibe.
Ha szétcsúszik a világ, ha minden a feje tetejére áll, ne ess kétségbe. Ez csak egy kis pánik. A főbb szerepekben Sell Judit, Bánsági Ildikó, Valc Péter, Vallai Péter és a 39. Magyar Filmszemle legjobb női színész díjazottja Gubik Ági. Pánik. Tilla Tilla filmjét kedd este tekinthetik meg a Duna Televízióban. Elcsábították. Csapdába csalták. Vadásznak rá. Rá kellett jönnie, ki is ő valójában. A főszerepben Sophie Marceau.
Anthony Zimmer.
Francia thriller csütörtök este 8 órakor a Duna Televízióban. Ő volt a legfélelmetesebb jakuza.
Ne felejtsétek el leadni a sápot. És mutassatok tiszteletet.
Az utolsó küldetés.
Az okinavai Nakamachu klán háborút indít az Annan klán ellen. A legutóbbi esetben 3 emberemet ölték meg. Az ilyesmi sajnos az üzlet teje.
Csak egy isten hozott lövét. Ez már háború.
Kitano Takeshi filmjeiből Sonatina. A japán kultfilmrendező 1993-as alkotását csütörtök este 4:11-kor tekinthetik meg a Duna Televízióban.